Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halou Dmoun.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
En période de canicule, nous assistons à des coupures d'eau, une situation qui se corse d'année en année. Par exemple, selon des experts, Bamako a besoin de 383 957 mètres cubes d'eau par jour. La Somagep, la seule société qui assure l'exploitation de l'eau potable sur toute l'étendue du territoire national, lui offre un maximum de 202 053 mètres cubes, ce qui limite du coup l'accès au service de l'eau potable à une personne sur deux. Depuis des jours, plusieurs zones du pays sont confrontées à une pénurie d'eau. Si dans certains endroits, l'eau n'est accessible que la nuit, dans d'autres localités, les bornes fontaines et les robinets sont à sec depuis des semaines. Que faut-il faire pour produire de l'eau de qualité? Quelles sont les contraintes? Ne peut-on pas prendre des mesures pour éviter des coupures trop fréquentes d'eau en période de chaleur? Y a-t-il une solution alternative? Studio Tamani pose le débat. Nos invités au nombre de trois sont Dr Sidi Ba, maître de conférence en géologie et mines, Madame Salamata Diarra, présidente de la coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, KFA, elle est au téléphone, Monsieur Abdelwahab Diakité de l'association des consommateurs du Mali Ascoma, il est également au téléphone. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Avant de rentrer dans le vif de ce débat, écoutons ces réactions de la population qui s'insurge contre le manque d'eau. Nous venons d'écouter ces réactions de population qui demandent d'autres alternatives pour avoir de l'eau. Certains demandent à ce qu'il y ait des forages. N'y a-t-il pas assez de ressources en eau, M. Ba?
Oui, merci madame pour l'invitation et pour cette émission. Oui, pour la question, le Mali est doté de suffisamment d'eau et ça peut paraître paradoxal malgré que nous soyons un pays sahélien, même saharo-sahélien en partie, mais nous disposons de d'immenses ressources en eau. Le problème qui se pose, c'est comment rendre disponible cette ressource en eau à tout le monde et aussi de faire en sorte que cette eau soit potable, c'est-à-dire qu'elle puisse être consommée sans présenter des risques pour la santé des consommateurs. Alors pour cela, on a quand même une société d'État qui a pratiquement un monopole sur la fourniture d'eau potable. Alors peut-être qu'il faut revoir toute cette politique, parce qu'un pays aussi vaste que le Mali, et quand vous regardez même la société d'État, je ne sais pas si je peux la nommer, qui a le monopole sur la distribution d'eau,
Vous regardez... Je rappelle d'ailleurs que nos tentatives pour avoir la SOMAGEP sont restées vaines.
Voilà. Donc la SOMAGEP, quand plus vous partez dans les Mali profond, plus vous ne voyez plus de SOMAGEP. En fait, la SOMAGEP est cantonnée dans les centres urbains. Et ce n'est pas par hasard que vous allez trouver que même l'accès à l'eau potable dans les centres urbains est supérieur à celui du milieu rural. Donc, de fait, il y a un problème quand même parce que la société n'arrive pas à fournir à toute la population de l'eau potable. Donc, peut-être qu'il faut revoir la politique en libéralisant le secteur. Pourquoi ne pas accepter qu'il y ait une autre ou deux autres sociétés dans le secteur pour que ces sociétés peut-être puissent occuper l'espace vide laissé par la société d'État. Ça, c'est possible. Par exemple, quand ils parlent de forage, ils multiplient les forages. Bon, les forages, c'est pas partout qu'on fait, on crée un forage et puis on trouve de l'eau. Dans certaines parties, oui. Dans d'autres parties, on ne va pas trouver. Mais si on avait libéralisé le secteur, d'autres acteurs peuvent bien remplir cette place, c'est-à-dire que faire en sorte qu'ils aient leur propre fourrage et distribuer cette eau aux citoyens. Ça, c'est un... Bon, et puis, il faut peut-être augmenter la subvention à l'eau potable, parce que je ne sais pas à quelle hauteur actuellement la subvention elle est faite par l'État, mais dans certains pays, notamment les pays scandinaves, même au Canada, au Québec, par exemple, l'eau potable, elle est gratuite, entre guillemets, parce que c'est l'État qui décide qu'aucun citoyen n'achète de l'eau. Donc, on donne l'eau gratuitement. Mais en fait, c'est payé indirectement sur d'autres taxes. Donc, en tout cas, il faut revoir les mécanismes en place parce que tout le temps, c'est comme ça. À chaque fois qu'on rentre dans la période de canicule, vous allez trouver qu'il y a un déficit en eau. Il y a même une pénurie, souvent. Donc, elle devient, de fait, chronique. Donc, ça veut dire qu'il faut changer de paradigme et puis revoir les politiques en place pour que
vous disiez,
sorte de ce
site. Tantôt qu'on a assez de ressources en eau, quelles sont ces ressources-là?
Mais regardez par exemple le fleuve Niger. À Bamako, ce n'est pas tout le monde qui a l'eau potable à la maison. Est-ce qu'il y a manque d'eau à Bamako? Le fleuve, là, nous tous, toute la population de Bamako peut aller puiser dans le fleuve. L'eau, là, ne va pas tarir. Donc, ça veut dire qu'il y a suffisamment de ressources en eau ici. Quand vous partez au niveau de la partie ouest, vous avez le fleuve Sénégal. Et ça, c'est les deux plus grands fleuves en Afrique de l'Ouest qui arrosent plus le Mali que n'importe quel autre pays dans la sous-région. Est-ce que vous voyez? En plus de ça, quand vous partez plus au nord, là, on est dans ce qu'on appelle le système sédimentaire. C'est des grandes nappes fossiles qu'on a là-bas. C'est d'énormes quantités d'eau souterraine qui sont là-bas. Maintenant, l'accès à cette eau est très difficile parce que ça requiert des technologies avancées. Parce que pour forer dans un endroit où l'eau est à plus de 200 mètres de profondeur, c'est compliqué quand même. Donc voilà, ce n'est pas les ressources qui manquent honnêtement au Mali, mais c'est plutôt comment mobiliser cette ressource, comment capter la ressource et puis dans certains cas, la traiter. Parce que si c'est l'eau de surface, là, les traitements, ça coûte cher. C'est le cas à Bamako, par exemple. Vous avez vu qu'avec la station de pompage de Djikoroni, vite, on a dépassé la demande en eau, de satisfaire la demande en eau, on a créé Kabala. Mais même là, encore, le problème n'est pas résolu. Et même quand Kabala va atteindre sa capacité maximale de production, on sera en déficit d'approvisionnement en eau des populations de la ville de Bamako. Donc ça coûte cher de traiter de l'eau. Mais quand vous partez dans la partie du nord, quand vous êtes dans le bassin, ce qu'on appelle le bassin de Taoudeni, Tanezrouft, ou bien dans le bassin de Zoulimeden, là c'est une question comment remonter l'eau à partir des profondeurs du sous-sol. Et ça coûte cher aussi en termes d'équipement, de forage et puis d'équipement. Bon, là-bas, on a suffisamment de soleil. Là aussi, dans les interventions, vous avez vu, quelqu'un a dit qu'il faut peut-être aller vers le solaire. Effectivement, quand on recourt plus à l'énergie solaire, là où c'est vraiment disponible, on peut résoudre le problème d'exode, c'est-à-dire comment sortir l'eau de sa source pour amener ça à la surface et puis après distribuer ça aux consommateurs.
Alors, Madame Salamata Diarra, vous êtes à la tête d'une coalition qui milite pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. On peut savoir avec vous la situation générale au Mali. Quel est le pourcentage de population qui a aujourd'hui accès à l'eau et dans quel milieu, semi-urbain, urbain ou rural?
Aujourd'hui, la question de l'accès à l'eau potable est une question très fondamental, hein, parce que finalement, il y a eu Kabbalah, il y a eu des investissements, mais néanmoins, l'accès à l'eau potable demeure un problème majeur. La SOMAGEP et la SOMAEP sont là pour que les gens puissent avoir l'eau. On ne comprend pas très bien ce qui se passe pour que les gens soient toujours dans cette situation de pénurie d'eau. Je vais parler, par exemple, de ce que nous avons eu à faire à un moment donné avec la CAIFA et Water Aid. Et malgré tous les efforts qui sont fournis, l'accès à l'eau potable demeure une question qui n'est pas... L'eau n'est pas constante. Il y a des coupures intempestives, il y a des coupures intempestives, les gens n'ont pas droit à l'eau, n'ont pas accès à l'eau. Je parle par exemple du cas de Sabaligougou, où nous avons eu, qui est un quartier de la commune 5, et on a eu à voir que à ce niveau-là, le sol est rocailleux. Il est rocailleux de telle sorte que pour avoir l'accès à l'eau potable, les gens ont des tas de difficultés. Nous avons fait un plaidoyer très fort sur la question il y a moins de un an pour que la donne puisse changer. Mais la situation demeure préoccupante. Hein. Les gens n'ont pas accès à l'eau. Malgré tout, la SOMAGEP, la SOMAPEP n'arrive pas. Kavala n'a pas répondu aux attentes. Et les gens sont toujours dans les mêmes difficultés.
Et justement, quelle est cette relation SOMAGEP-SOMAPEP dans l'accès de l'eau? Société malienne pour la gestion de l'eau potable et Société malienne pour le patrimoine de l'eau potable, si je ne me trompe pas.
Voilà, c'est bien ça. C'est le patrimoine et la gestion de l'eau. Donc, ça veut dire que quelque part, la dimension réelle qui doit être prise pour que les gens puissent avoir accès de façon continue, de façon permanente, les sociétés n'arrivent pas à assumer ça. La SOMAGEP est là, la SOMAPEP est là, mais tous les jours, on est toujours dans le même problème. C'est incompréhensible parce que les gens se sont mis ensemble, les gens ont essayé de développer des moyens pour que les uns et les autres accèdent à l'eau potable. Et à chaque fois, je me souviens, nous avons fait Sabaligougou et récemment avec les femmes, et on a eu des tas de problèmes avec les femmes qui souffraient énormément pour avoir de l'eau potable à Sabaligougou. Nous avons, elles sont obligées de faire du stockage de l'eau dans des bidons, dans des choses, pour pouvoir s'en sortir. Donc je crois que vraiment, il faut que le Mali puisse prendre des dispositions très fortes de manière à ce que l'eau potable soit disponible. Parce que l'eau, on le dit, et c'est la vérité, ce n'est pas un mot creux, l'eau c'est la vie. Sans eau, il n'y a rien. Donc il y a lieu de vraiment revoir la question en profondeur et de se remettre en cause pour que chacun en ce qui le concerne puisse jouer un rôle majeur afin que l'accès à l'eau potable soit une réalité au Mali.
Abdoul Wahab Diakité, vous êtes à la tête d'une organisation qui milite pour le droit des consommateurs au Mali, Ascoma. Que faites-vous pour ces consommateurs qui sont en manque d'eau actuellement?
En fait, un petit rectificatif d'abord.
Oui.
Je ne suis pas à la tête, mais je suis le premier vice-président.
Le premier, okay, premier vice-président.
De l'Association des consommateurs du Mali. Le droit à des services essentiels dans l'eau est un droit conféré par les Nations Unies aux consommateurs. Mais malheureusement, ce droit est grigé au Mali, dans la mesure où, comme vous l'avez déjà dit, chaque année et à tout moment également, on a des coupures intempestives. Mais je voudrais d'abord réagir un peu sur les propos. En fait, la SOMAPEP est là pour, dans le cadre de l'investissement. La SOMAPEP fait l'investissement et la SOMAGEP, c'est juste la gestion. Bon, et il y a un autre contexte qu'il faut dire également. L'eau est une compétence transférée aux collectivités. Donc, en parlant, il y a déjà les privés qui sont sur le lieu. Il y a déjà les privés.
Ah bon? Qui sont ces privés-là qui sont dans ce secteur-là?
Non, les privés, bon, au niveau des collectivités rurales, là, il n'y a que les privés. Hein. Toutes les zones qui sont hors de concession de la SOMAGEP sont occupés par des privés. Même partir un peu, même pas, juste allez-y voir un peu à Mouribabougou. C'est un privé qui est en train d'approvisionner les populations. Donc, moi, je pense bien que ce qui s'oppose, ça y est, le problème qui s'oppose, au niveau, comme le docteur l'a dit, on a de l'eau suffisamment, mais comment faire pour réellement rendre accessible cette eau-là aux populations? Et c'est ce qui est la question fondamentale. On a eu à faire des réformes dedans. Quand, sinon, dans l'OTAN, c'était l'énergie du Mali. Mais l'eau et l'énergie étaient rattachées. Mais avec la réforme, on a fait l'électricité une entité à part et on a fait de l'eau deux entités. On a créé deux entités. La SOMAPEP, Société Malienne du Patrimoine, qui a pour mission essentielle de faire des investissements. Et après avoir fait des investissements, la société passe la gestion à la SOMAGEP. Et c'est la SOMAGEP qui gère actuellement. La SOMAGEP ne fait pas d'investissement, mais c'est plutôt la SOMAPEP. Donc moi, je pense que votre interlocuteur meilleur, ça devrait être la SOMAPEP ou bien le ministère même à charge de l'eau. Voilà.
Alors, que faites-vous pour ces populations qui n'ont pas accès à l'eau? Qu'est-ce que vous faites pour vous plaider en leur faveur?
Bon, en fait, nous plaidons effectivement en leur faveur. Si il y a eu cette réforme-là, en partie, c'est à la suite des combats de la société civile, et notamment l'ASCOMA. Parce qu'on avait vu un moment que... Allô?
Allô, oui, là, allez-y.
Je disais que le combat, c'était quoi? C'était l'ASCOMA, dans la mesure où on peut considérer l'électricité comme un bien, et un luxe, un bien de luxe. Par contre, l'eau, c'est la vie. Donc, il y avait lieu réellement de scinder les deux sociétés-là et de mettre à part une société qui est carrément chargée de l'investissement. Et c'est l'État qui investit. L'État a ses partenaires. Et maintenant, quand l'État investit, elle donne les choses, la société, la SOMAPEP donne maintenant la gestion à la SOMAGEP. Donc, c'était ça notre combat. Et au niveau également des collectivités, et ce qui avait lieu de faire, c'était effectivement de faire en sorte que ces collectivités puissent avoir aide des partenaires dans le cadre de l'adduction en eau potable de leur population.
Docteur Ba, je viens vers vous. Qu'est-ce qui fait qu'au regard de tout ce que nous venons d'entendre, qu'est-ce qui fait que l'accès à l'eau est difficile dans certaines zones du pays?
Ok. Avant d'arriver à cette question, j'aimerais juste rajouter, il y a une question
allez-y,
que vous
allez-y.
Avez demandé, c'est-à-dire le taux d'accès à l'eau potable. C'est-à-dire pour le Mali, d'après les statistiques que j'ai, le milieu urbain est à 76% et au milieu rural, on est à 60%. Un peu moins de 66%. Et puis, pour la moyenne nationale, on est autour de 68,8%. Ça, c'est les statistiques officielles qu'on retrouve. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce qui fait que cet accès est difficile dans certaines zones?
Alors, pourquoi est-ce que l'accès à l'eau est difficile dans certaines zones? Ça, c'est la nature même. C'est-à-dire que la ressource en eau, elle n'est pas disponible à la même quantité et à la même qualité partout dans le pays et à travers le monde, c'est comme ça. Les hommes ne se sont pas toujours installés seulement que là où l'accès à l'eau elle est facile. Donc, il y a ça. Quand vous prenez, par exemple, le plateau d'Ogon, c'est sûr que l'accès à l'eau là-bas n'est pas facile. Mais ça, c'est le contexte géologique et puis même physique, simplement, qui fait ça. Alors, mais ça, c'est pas des excuses pour que dans un pays, les citoyens n'aient pas accès à l'eau. L'eau, ça coûte cher, je l'avais dit tantôt, ça coûte cher de traiter de l'eau. Et puis, ça demande des compétences aussi. L'eau, c'est vrai que c'est une ressource qui paraît un peu banale, mais ce n'est pas n'importe qui peut assainir l'eau. Hein. Ça demande non seulement des compétences, des compétences et des connaissances sur la ressource en question, et aussi pour la rendre potable, ça coûte cher parce que souvent ça demande des produits chimiques ou bien des techniques physiques qui demandent des investissements énormes. Alors, pourquoi la question, c'est pourquoi est-ce que depuis les indépendances, on n'arrive pas à avoir une couverture d'accès à l'eau potable qui soit au moins 80%? Parce que quand on atteint les 80%, pour tout le monde, et je ne parle pas ici du milieu rural versus milieu urbain, mais pour tout le monde au moins, là, on peut être un peu satisfait. Mais on est vraiment satisfait quand on atteint presque les 100%. Alors, je pense que ça, c'est juste une question de politique, et je dirais même de volonté politique. Parce que quand on regarde là où souvent les gaspillages qui sont faits dans certains endroits, sans vouloir même jeter l'anathème à aucune structure, hein, vous partez dans nos services publics, souvent vous allez trouver que l'eau, il y a des robinets qui ne se ferment jamais, dans la même ville, à Bamako ici. Et dans la même ville, quelqu'un a dit à Sabalibougou, vous avez une pénurie d'eau. Quand vous partez à Sirakoro ou bien à Faladje, c'est jusqu'à 2h, 3h du matin que les gens ont l'eau au robinet, et ça aussi pendant peut-être 2-3 heures, pendant que les gens sont couchés. Voilà. Donc ça, il y a quand même à revoir les politiques au niveau du gouvernement. Parce que la gestion rationnelle d'une ressource qui est indispensable pour tout le monde et à laquelle tout le monde n'a pas accès ne peut pas se faire seulement dans le laisser-aller. Donc il faut vraiment encadrer ça. Il y a suffisamment de... Vous savez que même la quantité d'eau potable produite par la SOMAPEP, SOMAGEP, si vous les mettez ensemble, que ce soit l'investissement et puis la gestion, vous allez vous rendre compte que ça va pas faire 80%. C'est-à-dire que 80% de l'eau qui est produite n'est pas arrivée chez le consommateur. Il y a une bonne partie qui est perdue dans le réseau, justement à cause souvent des mauvais comportements et puis du laxisme même de l'État. Vous partez dans les services publics, souvent vous allez voir qu'il y a des bananeraies où il y a un raccord d'eau qui est là, l'eau coule et ça ne dérange personne. Alors que à chaque fois que quelqu'un ouvre son robinet, ça veut dire qu'il est en train d'aspirer la quantité d'eau mise dans le réseau chez lui. Donc, pendant ce temps, il y a certains qui ne peuvent pas avoir de l'eau parce que lui, il a l'eau. Est-ce que vous voyez? Alors que si lui, il libère l'eau, parce qu'il n'en a pas besoin, au lieu de laisser l'eau couler comme ça, quelqu'un d'autre va avoir l'eau au bout du robinet. Donc, ça, c'est des mesures qui sont souvent banales, qui peuvent être mises en place, et on peut le faire juste par la sensibilisation et par l'éducation. Bon, évidemment, il faut aussi donner la priorité, parce que nous sommes un pays sahélien, il fait très chaud. Souvent, vous voyez, ce n'est pas parce que c'est tout soudain que quand on rentre au mois de mai, ou bien avril, mai, juin, que les...
Mais c'est la chaleur. Généralement, avril, mai, juin, il y a coupure d'eau.
Oui, parce qu'en ce moment, la demande est très forte. Parce qu'à cause de la déshydratation élevée, les gens ont besoin de boire beaucoup plus d'eau, les gens ont besoin de se laver plus fréquemment. Donc, tout ce qui entraîne une consommation d'eau devient élevé. Donc, dans ce contexte, on ne peut pas à chaque fois croiser les bras et puis attendre au mois d'avril, mai, juin, pour dire qu'il y a pénurie d'eau, on se lève, on fait des marches, on fait des cas. Ce n'est pas ça la solution. Vous allez voir, même ceux qui marchent pour se plaindre ou bien ceux qui tout le temps sont en train d'accuser la société publique, vous allez voir quand le mois de juin va arriver, le mois de juillet arrive, il y a suffisamment d'eau là. C'est comme s'ils n'ont jamais existé, ils disparaissent. Est-ce que vous voyez? C'est quand le problème se pose, encore les gens se lèvent. Donc tout ça dénote d'un certain manque de constance et puis même de vision, on peut le dire.
J'en viens à cette question, on pourra la poser au vice-président de l'Association des consommateurs du Mali. Monsieur Diakité, docteur Ba soulevait tout à l'heure que c'est quand le problème est fini, juin, juillet, il y a au mois de... durant l'hivernage, quand il y a suffisamment d'eau, on voit qu'il y a moins d'actions pour prévenir qu'il risque d'avoir pénurie d'eau la prochaine fois. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Est-ce vrai qu'en période de canicule, vous vous levez, vous dénoncez après? Silence à radio?
Non, nous ne sommes pas une association populiste. Je dis, nous ne sommes pas une association populiste. Et tout ce qu'on leur reproche, c'est que nos actions ne sont pas visibles. Sinon, imaginez un peu, nous sommes en contact permanent avec les autorités. C'est pourquoi, très souvent, on les taxe de très durs, de mots très durs vis-à-vis des autorités. Parce que même le jour, je disais, c'était un manque de vision. Et je parlais même de mépris de la part des autorités vis-à-vis des populations.
Alors, vous êtes en contact avec les autorités, vous expliquez tantôt la relation SOMAGEP-SOMAPEP, et qu'est-ce qui explique aujourd'hui les retards accusés dans la réalisation des travaux pour la fourniture d'eau comme la réalisation de la centrale de Kabala?
Moi, je vous dis tout simplement que
oui,
une association de consommateurs a pour mission l'interpellation, la dénonciation et les appels.
Et cette dénonciation, vous faites à tout moment ou quand?
Attendez-moi, madame. Nous le faisons à tout moment. Quand je parle là, je suis en train de vous dire ce qui est réellement ce qui est dit au niveau de,
l'eau
au Mali.
Okay.
Voilà. Non, je suis en train de vous dire le problème de l'eau au Mali. Oui, vous prenez tout de suite Kabbalah. Pour que l'État malien puisse faire la mobilisation des fonds, c'est que nous, population et nous, consommateurs, nous avons accepté l'augmentation en 2012. Mais que les gens et les historiens n'en parlent pas. Parce que c'était la commission sine qua non pour la mobilisation des fonds de Kabbalah. Et comment cette augmentation a eu lieu, on a diminué la tension sociale de 20 à 10. Avant 2012, c'était 20 mètres cubes la tension sociale. Mais pour permettre à la mobilisation des fonds, les consommateurs maliens ont accepté la diminution de la tranche sociale, donc ce qui constitue une augmentation. Pour vous dire que nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas des populistes qui crient à tout moment. Mais si on a un problème, c'est qu'il y a un déficit communicationnel par rapport à tout ce que nous faisons. Et c'est en cela, d'ailleurs, chaque fois que je suis sur le plateau de Tamani, je le salue par rapport aux actions. Par rapport aux actions qu'ils mènent dans le cadre de l'amélioration des vies des populations. Parce que chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est Sidio Tamani qui nous appelle et qui nous donne la possibilité de dire exactement ce que nous avons fait comme proposition à l'endroit des plus hautes autorités de notre pays. Donc, nous leur disons à tout moment le problème qu'il y a. Voilà.
Nous venons d'entendre dans les différentes interventions que la SOMAJEP ne couvre pas totalement le territoire national. Salimata Diarra, Salimata, vous êtes la présidente d'une coalition pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. Quels sont les territoires, les parties dans votre... Est-ce que dans vos études, vous pouvez nous dire les parties du pays qui sont couvertes par la SOMAJEP?
La SOMAJEP, il faut dire, la SOMAJEP, normalement, c'est l'ensemble, normalement, que la SOMAJEP doit couvrir. L'ensemble, normalement. La SOMAJEP est là pour la distribution, l'accès. Là où il n'y a pas... On doit créer les moyens, les systèmes d'accès à l'eau potable à travers, les pompes, les systèmes de pompes qui puissent permettre aux gens d'avoir accès à l'eau potable. Mais la difficulté est liée au fait que le système, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je reviens sur Sabalibou, sur laquelle nous avons travaillé récemment. C'est une zone rocailleuse. Rocailleuse de telle sorte que les gens, pour avoir l'eau potable, c'est la croix et la bannière. Et quand la zone est rocailleuse, l'accès... le travail pour aller à parvenir à avoir l'eau potable est très, très difficile à assurer. Donc, ce n'est pas du tout... Donc, il faut de gros moyens, en fait, pour dire la vérité. Il faut mettre de gros moyens pour faire en sorte que les gens puissent... le pays doit mettre le paquet sur la question de l'accès. Parce que, comme on l'a dit, l'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a rien.
Alors, Madame Ouattara, quelles peuvent être les alternatives alors pour avoir l'eau potable? Madame Diarra, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Quelles peuvent être les alternatives aujourd'hui pour avoir l'eau potable à Bamako?
C'est les forages. Il faut multiplier les forages. Il faut faire en sorte que les forages puissent combler les insuffisances autant que faire se peut. Parce que la SOMAJEP en tant que telle n'est pas à même de le faire. Donc il faut absolument trouver les voies et moyens pour qu'il y ait des forages à tous les niveaux difficiles pour que les gens aient accès à l'eau potable autant que faire se peut, parce que c'est un des premiers droits du consommateur. Il nous faut aller vers ça.
Docteur Sidiba, partagez-vous cette solution prônée par Salimata Ouattara, les forages?
Non, je ne la partage pas du tout. Je comprends aussi qu'elle n'est pas spécialiste de ce domaine-là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un endroit est rocailleux qu'on ne peut pas avoir de l'eau là-bas. Non, ce n'est pas ça. C'est le contexte géologique qui détermine est-ce qu'on a l'eau ou pas. Dans un contexte géologique, même si à la surface on a des roches dures, ça se peut qu'on ait suffisamment de l'eau en profondeur. Tout comme vous pouvez être dans un contexte aussi où ce n'est pas du tout rocailleux en surface, mais quand vous faites un forage, vous allez tomber sur des forages, ce qu'on appelle les forages négatifs. Alors, les forages, justement, il y a une grande inquiétude par rapport à ça, parce que vous allez remarquer que, avec bien sûr la multiplication des sociétés de forage d'eau, pratiquement tous ceux qui ont les moyens sont en train de forer à Bamako. Et vous savez que Bamako est sur un sol, un substrat rocher, où ce n'est pas des nappes, ce qu'on appelle les nappes continues. C'est-à-dire que quand vous partez en profondeur, ce n'est pas comme lorsque vous êtes dans le bassin de Taoudéni ou de Tanizourouf dont j'évoquais. Vous avez comme une nappe continue sur plusieurs milliers de mètres ou bien plusieurs dizaines de kilomètres. Ce n'est pas comme ça. Bamako, c'est des zones de fractures et de fissures. C'est là où vous allez avoir des poches d'eau. C'est pourquoi d'ailleurs, certains, vous allez voir, ils vont faire des forages, mais ils n'ont pas suffisamment d'eau. Parce que peut-être qu'ils sont juste en train de capter l'eau en surface, ce qu'on appelle la nappe phréatique. Mais l'eau, pour assurer la consommation de façon permanente, il faut faire de la géophysique et savoir est-ce que la fracture, elle est bien grande, elle est suffisamment grande pour emmagasiner suffisamment d'eau sur laquelle on peut reposer pour longtemps. Ce n'est pas ça la solution pour Bamako. Je comprends qu'elle prend le cas de Katibougou pour illustrer la situation à Bamako. Alors, et puis il y a un autre problème pour Bamako. Puisque tout le monde est en train de forer maintenant aux alentours, de plus en plus, on sait que c'est connu avec les changements climatiques, que de plus en plus, le niveau de la nappe, des nappes, est en train de baisser partout dans le Sahel. Et ça, c'est de façon très graduelle, sur plusieurs années. Alors, en plus de ça, le fait que tout le monde est en train de faire des forages et pomper, donc ça veut dire qu'il y a une concurrence forte. Il y a une forte pression sur la ressource. De plus en plus, il va falloir aller en profondeur pour trouver de l'eau. Et malheureusement, à Bamako, plus vous allez en profondeur, moins vous avez la garantie que vous avez de l'eau, en tout cas quand vous dépassez un certain niveau, parce que Bamako repose sur un substrat rocheux. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Mais la solution, c'est quoi? Il faut une priorisation du secteur. Et puis, regardez même, vous allez trouver toujours qu'on met le ministère en charge de l'eau, c'est toujours le ministère de l'énergie et de l'eau. On a toujours attaché ça à l'énergie, mais ça c'est historique. Hein. Je pense qu'on doit même sortir de ça, parce qu'actuellement, l'énergie n'a pas tellement à voir avec l'eau en termes de politique publique à mettre en place. Est-ce que vous voyez? Tout ce qu'il faut faire, c'est donner une très grande priorité à l'eau, comme le disait M. Diakité, savoir que l'eau, c'est une ressource indispensable pour tout le monde et tout le monde en a besoin à tout moment. Donc, on veut que dans le pays, pour des raisons d'équité et même d'humanisme, que tout le monde ait accès à l'eau potable à tout le monde. Parce qu'on a souscrit à ça. Quand vous prenez, par exemple, l'ODD, les objectifs de développement durable, l'ODD 6.1, qu'est-ce qu'on dit? D'ici 2030, il faut un accès universel à l'eau potable pour tous, et à un coût abordable. Donc, si vous souscrivez à des têtes politiques, à des agendas comme ça au niveau mondial, il faut bien que vous mettez les moyens qu'il faut pour atteindre. Parce que c'est bien beau de dire qu'on a souscrit à ça, mais pertinemment, vous ne mettez pas les moyens pour atteindre l'objectif. Ça devient comme, il dit le mot populisme, ça devient comme du populisme, au fait. Donc, il faut que l'État mette beaucoup plus de ressources dans l'accès à l'eau potable. Et je dis à Bamako, le fleuve Niger nous offre la possibilité de traiter cette eau et que tout le monde puisse avoir cette eau. Mais la réalité, quand même, il faut le reconnaître, c'est que l'eau, ce n'est pas le même le traitement, ce n'est pas ça qui coûte trop cher, c'est la distribution. Il faut mettre des canalisations pour que ces canaux arrivent chez tout le monde. Ça, ça coûte très cher. Et quand vous regardez certaines de ces canalisations, on ne les produit même pas sur place. On est obligé d'importer tous ces équipements-là. Donc, ça coûte très cher. Mais ça, il n'y a pas d'alternative. Il faut que l'État mette assez de moyens et donne une priorité à l'eau. Et à là, j'ajouterais même l'assainissement, parce que les deux vont ensemble. Parce que vous avez beau avoir de l'eau potable, si la ville continue d'être, excusez-moi, une poubelle à ciel ouvert, évidemment, cette eau sera recontaminée. Et même l'eau du fleuve, parce qu'on n'assainit pas la ville, sera de plus en plus polluée. Ça va coûter de plus en plus cher de traiter même cette eau. Donc il faut que l'eau et l'assainissement...
Pour résumer ce que vous venez de me dire, nous avons assez de ressources en eau, mais il faudrait que nos gouvernements mettent les moyens pour que cette eau soit accessible à tous.
Il faut une grande priorité
à ce secteur. Abdoul Wahab Diakité, quelle alternative pour l'accès à l'eau potable pour tous au Mali?
Bon, madame, je commencerai par dire que les textes sont faits pour être appliqués. Malheureusement, au Mali, on a des beaux textes qui ne sont jamais appliqués, notamment le code de l'eau. Le code de l'eau, tout préleveur paye. Donc, forcément, si on mettait si le fond de l'eau était fonctionnel à partir du code de l'eau, c'est sûr que tout le monde allait avoir de l'eau. Mais ce qu'il faut également dire, c'est qu'en laissant les gens également faire des forages par-ci, par-là, c'est qu'il y a un danger là-bas. Logiquement, si la DNH, la Direction nationale de l'hydraulique, faisons son travail, personne ne devrait faire un forage sans pour autant y faire sans le référer. Malheureusement, cela ne se fait pas. Bon, il y a des grands utilisateurs d'eau comme les mines ou autres là, mais qui ne paient rien. Donc c'est pourquoi je dis, si les textes du Mali étaient réellement appliqués à leur juste valeur, c'est sûr qu'on n'allait pas avoir tous ces problèmes-là.
Si je vous prends au mot, les forages, il faudrait qu'il y ait moins de forages, mais surtout les réalités maliennes sont faites que dans chaque famille, vous aviez, dans chaque ancienne famille, vous aviez des puits à Bamako, suffisamment de puits dans plusieurs familles maliennes. Est-ce que traiter ces eaux de puits ne peuvent pas être une solution alternative?
Non, moi je dis tout simplement, madame, pourquoi aller essayer d'enfoncer une porte déjà ouverte? On a pris le code de l'eau depuis 2002 comme ça. On a un fonds là-bas qui est destiné à l'extension de l'eau. Mais pourquoi ne pas l'appliquer? Non, logiquement, quelqu'un ne doit même pas faire un forage comme le docteur l'a dit. Tous les riches, maintenant, entre guillemets les riches, sont en train de faire le forage sans pour autant aviser la DNH. Logiquement, tous ces forages-là devaient être dans le stigma dans le répertoire de la DNH. Parce que la politique même de l'eau le relève. Donc maintenant, si chaque fois que tu prélèves de l'eau, là, chaque fois que tu prélèves de l'eau, tu dois payer une redevance. Si cette redevance-là était payée normalement, c'est sûr qu'on allait pouvoir faire face à tous ces investissements-là. Sans même faire appel aux partenaires techniques et financiers. Les textes sont faits pour être appliqués, madame. Il n'y a pas de changement dessus.
Les textes sont faits pour être appliqués. Salimata Diarra, oui. Est-ce que privatiser la SOMAGEP, comme soulevait Dr Ba en disant qu'il faut créer d'autres acteurs, moi je dirais privatiser la SOMAGEP pourrait être la solution pour qu'il y ait accès à l'eau à tous?
Et moi je crois qu'avec tous ceux qu'on a vu comme insuffisance jusqu'à maintenant, depuis que les deux sociétés existent, il y a lieu de revoir notre stratégie pour que nous puissions vraiment sortir. Parce que c'est un mot qu'on dit banalement comme ça, l'eau c'est la vie, mais c'est la réalité. Moi je vais vous dire une chose, vous allez dans les ministères, vous rentrez dans les toilettes, vous voyez que l'eau coule à flot. Les chasses d'eau ne fonctionnent pas. Les robinets sont mal fermés. On vit ça dans les ministères parce que c'est gratuit. C'est l'État qui paye, donc personne ne prête attention. C'est des comportements comme ça qu'il faut revoir. Il faut faire en sorte que les mesures soient prises pour que les gens comprennent que la question de l'eau est une question fondamentale et que nous devons tout faire pour que l'accès soit universel à tous les niveaux où que l'on se trouve. Donc, je parle, les ministères, moi, je vais là-bas, puis on est étonné de voir l'état des lieux. L'eau coule par terre, les chasses d'eau ne ferment pas. Donc, il faut absolument que les gens prennent conscience de tout ça et qu'on prenne des dispositions pour que le système soit plus économique, afin que l'accès soit de plus en plus fort pour les uns et les autres.
Monsieur Ba, tantôt dans la réaction au début, on parlait des fourrages, l'installation des fourrages qui pourrait être une solution à ce manque d'eau. Mais est-ce que dès qu'on a un fourrage aujourd'hui, l'eau est-elle potable?
Alors, ça dépend de là où vous tirez l'eau de votre fourrage. Parce qu'il y a aussi, le secteur, il y a un peu d'anarchie là-dedans.
Ah bon?
Et oui, les forêts, je ne dis pas toutes les sociétés de fourrage, mais il y a des sociétés de fourrage qui trompent aussi les clients. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on sait qu'il y a la nappe phréatique et puis la nappe profonde. La nappe phréatique, c'est la nappe qui est en surface. Et ça, c'est les eaux de pluie. Et très souvent, elle est contaminée. À Bamako, la nappe phréatique, les études ont été faites. Elle est systématiquement contaminée pratiquement dans tous les quartiers. Mais dans certains cas, la nappe phréatique, elle est un peu profonde, elle peut aller jusqu'à 30 mètres de profondeur. Donc, ils viennent, ils forent, et puis ils vous sortent de l'eau, vous êtes content, et puis... Donc, dans ces cas-là, l'eau n'est pas forcément potable si c'est dans la nappe phréatique. Mais quand vous êtes dans la nappe profonde, les chances sont énormes que cette eau ne soit pas du tout contaminée. Il peut y avoir des cas où souvent vous tombez même sur des formations rocheuses qui sont toxiques, qui peuvent avoir des minéraux toxiques tels que l'arsenic par exemple. Ça peut faire en sorte que l'eau ne soit pas aussi potable. C'est pourquoi d'ailleurs, à chaque fois que vous faites un forage, normalement, même pas un forage, même un puits, tant que vous creusez et puis sous la terre vous sortez de l'eau, systématiquement il faut faire une analyse physico-chimique et même bactériologique si c'est la nappe phréatique. Donc, mais seulement, il y a quelque chose que je voudrais ajouter sur ce problème de forage aussi. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la DNH... J'apprécie bien l'idée de Diakité, c'est-à-dire qu'on a créé le fonds de l'eau justement pour appliquer les textes. C'est-à-dire que le principe du pollueur-payeur, le principe aussi du préleveur-payeur. Mais pourquoi souvent ce n'est pas appliqué par l'État? L'État ne peut pas le faire parce que justement... Des quartiers qui sont pratiquement au cœur de la ville, l'État est incapable pendant des années de leur donner de l'eau potable. Prenez des gens qui sont à Faladje. Aujourd'hui, Faladje se trouve pratiquement au cœur de Bamako. Si l'État est incapable de donner à des citoyens de l'eau potable à Faladje, est-ce que l'État est capable de venir empêcher aux gens de faire les forages pour se donner eux-mêmes de l'eau, une ressource indispensable pour la vie?
Donc cela veut dire que pour faire un forage, c'est réglementé.
Normalement, c'est réglementé. Parce que faire un forage, c'est comme faire une mine. Les ressources sont publiques. L'eau sous terre, là, ça n'appartient pas à quelqu'un. Même si vous pouvez prétendre que le terrain, la parcelle sur laquelle vous avez construit, ça vous appartient. Donc, tout ce qu'il y a en dessous, ça vous appartient. Mais sauf que l'eau, c'est une ressource qui coule. Elle n'est pas stagnante. Donc, c'est une ressource publique. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il a fait mention du code de l'eau. C'est pourquoi dans le code de l'eau, c'est prévu le principe du préleveur-payeur. Donc, normalement, dans certains pays organisés, pour que tu puisses avoir même le permis de forer, il faut que tu payes déjà quelque chose. Et puis, il faut que... Toute l'administration doit intervenir, l'urbanisme, les domaines, parce que c'est des ressources publiques. Ça appartient à tout le pays. L'eau, ça n'appartient pas à quelqu'un. Mais regardez, même le fleuve Niger est en train d'être privatisé. Vous allez voir, on est en train de vendre ce qu'on appelle les servitudes du fleuve. Ça veut dire que maintenant, les citoyens n'ont même plus accès au fleuve Niger en beaucoup de tronçons. Parce que c'est des zones qui ont été vendues à des citoyens. Donc, tu ne peux pas accéder au fleuve là-bas. Donc, c'est la même problématique. Mais tout ça, c'est de la responsabilité de l'État en amont, quand vous regardez. Parce que les textes ont été mis en place, mais le fait que, bon, l'État est ce qu'il est au Mali, la faiblesse de l'État, et puis aussi, il y a les comportements des tenants, des reines de l'État, il faut le dire. Les citoyens se plaignent, mais quand même, eux-mêmes, ils sont les principaux représentants de l'État. Vous allez voir que leur
Alors, docteur Ba, on me signale qu'il ne nous reste que 3 minutes. Le problème, il est déjà là, il est connu. Nous sommes déjà confrontés actuellement à ce manque d'eau, à ces coupures d'eau dans plusieurs localités du pays, à Bamako comme dans les régions. Salmata Diarra, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat aujourd'hui pour atténuer la souffrance des gens?
Dans l'immédiat aujourd'hui, je crois que moi, je ne vois pas de solution si ce n'est pas de renforcer les forages, très honnêtement. Parce que quand tu traverses le port de Bamako, que tu vois l'état du fleuve asséché, qui est très, très sale, il y a lieu de s'interroger. Le fleuve Niger n'existe pas. C'est un tas d'ordures qui est là quand tu passes sur le pont.
Abdul Wahab Diakité, c'est conclu, Madame Diarra. Abdul Wahab Diakité, que faut-il faire dans l'immédiat pour donner l'eau à la population?
Dans l'immédiat, pour donner l'eau à la population, il faut appliquer les textes et également faire l'audit des investissements. Parce qu'on a fait des milliards d'investissements, mais il n'y a pas eu d'impact. Kavala est là-bas. Et c'est la SOMAPEP qui investit. La SOMAPEP a pour mission essentielle l'investissement. Au lieu de s'en prendre à la société qui gère là, moi je pense que c'est ce que le docteur a dit, c'est ça, c'est l'État qui est le premier responsable. Et l'investissement, la SOMAPEP relève directement de l'État.
Docteur Sidiba, que faut-il faire dans l'immédiat pour donner l'accès à l'eau?
Dans l'immédiat, il faut d'abord une gestion efficiente de la quantité d'eau potable produite. Il faut éviter le gaspillage, surtout en période de canicule, pour que ceux qui en ont besoin puissent trouver pendant que toi, tu es en train de gaspiller. Ça, il faut arrêter. Donc, il faut une gestion efficiente. Et évidemment, il faut, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont proposé, mais il faut quand même que l'État donne une priorité absolue à l'accès à l'eau potable.
Et c'est ce qui met fin à notre émission du jour qui porte sur les coupures d'eau. Quelle alternative? Nous invités au nom de trois étaient Abdelwahab Diakité de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA, Madame Salamata Diarra, présidente de la coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement CAIFA, et Dr Sidiba, maître de conférence en géologie et mines. Je rappelle que nos tentatives pour avoir la SOMAGEP, la Société malienne de gestion de l'eau potable, sont restées vaines. Mise en onde, Mamadou Ouattara, à la régie vidéo Gagné Kanté. Merci à toutes et à tous et excellente soirée. Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Beri.
Haloud Mouni.
Chienne Beri.
Sigi Kafoba.